Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Fréquence Mutine et Radio U. Nous enregistrons cette émission le vendredi 12 décembre 2025 au Quartz à Brest, lors du festival No Border, où les jeudis 11 et 12 décembre ont lieu le traditionnel colloque de ce festival organisé par l'association Drôme pour promouvoir les cultures populaires de tradition orale et la musique modale, en partenariat avec la Fédération des acteurs et actrices des musiques et de danse traditionnelle FAMDT. Cette année, le sujet abordé est passionnant, l'appropriation culturelle et la légitimité de l'artiste en question dans le champ des musiques populaires de tradition orale. Trois tables rondes ont été organisées avec divers acteurs et actrices lors de ces deux journées. Notre émission vient donc clôturer ces deux jours de réflexion et nous allons tout au long de cette heure revenir sur ce qui a pu y être abordé et permettre à vous, auditeurs et auditrices, d'appréhender le sujet de l'appropriation culturelle via le prisme de la musique et notamment des musiques populaires. Afin d'en parler, nous accueillons Anaïs Vaillant, coordinatrice du colloque, anthropologue et musicienne. Bonjour.
Bonjour.
Mais également Caroline Daroux, anthropologue et directrice de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne.
Bonjour. Bonjour.
Chris Maine, ou Christophe Lemaine, auteur, compositeur, interprète et comédien breton, directeur de la Chris Braise Academy. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Rebecca Roger-Cruz, chanteuse et percussionniste. Bonjour.
Bonjour.
Je ne suis plus directeur de Chris Braise Academy.
Ah, excuse-moi, mais tu l'as été.
J'ai fait la direction artistique il y a maintenant quelques années, mais voilà, maintenant c'est une direction artistique... qui change à peu près à chaque promotion.
Eh bien, c'est bien de me reprendre là-dessus. En tout cas, merci à vous de prendre part à cette émission. Pour commencer, il me semblait important de le redéfinir. C'est quoi l'appropriation culturelle ?
Alors, pour commencer, je peux peut-être donner la définition qui est la plus usitée hein, en ce moment, la plus médiatisée. C'est plutôt une notion accusatoire, une notion... On parle plutôt de conflit quand on parle d'appropriation culturelle. Et on parle vraiment d'un accaparement assez brutal, ou en tout cas dans une relation de domination, d'éléments culturels. Donc d'éléments culturels d'une communauté qui serait détentrice hein, de pratiques culturelles par un groupe dominant qui donc s'emparerait de ces éléments pour des fins marchandes, idéologiques. Voilà. Donc souvent, on est dans des expressions très stéréotypées, voire racistes, ces éléments culturels qui sont réduits. Voilà, on n'est pas dans des processus artistiques, en réalité, quand on parle de ça. Pourtant, c'est quand même depuis le monde artistique qu'on entend le plus l'usage de cette notion. Voilà, c'est quand même lié à la création, lié à l'image. Voilà, on pourrait dire ça dans plusieurs domaines artistiques, en tout cas.
En France, on a tendance, hein, comme tu le dis, à l'envisager de façon polémique, là où aux États-Unis, il s'agit d'un domaine universitaire lié aux études postcoloniales. Organiser ce colloque, ce n'est pas un acte anodin ?
Non. Je pense que Drôme a fait un choix assez courageux, assez audacieux de choisir cette thématique. Depuis les musiques populaires de tradition orale, c'est pas un détail. C'est un monde dans lequel on est sensible à ces questions de la tradition, de la transmission, des communautés, des cultures populaires. Donc je trouve ça très audacieux de la part de Drôme. Et on a fait... Le pari d'ouvrir un champ de réflexion collectivement avec ce qui est plane un peu dans les pratiques artistiques finalement, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique, enfin, et les artistes sont quand même nombreux à se poser ces questions-là. Donc c'était chouette d'avoir un espace pour enfin pouvoir en parler collectivement, pas être seul à se poser cette question chez soi, mais le mettre dans l'espace public.
En tout cas, on va pouvoir revenir sur tout ce qui a pu être dit dans ce colloque lors de cette émission. Mais avant ça, j'ai envie de revenir encore une fois sur cette appropriation culturelle. D'où ça vient ?
Je pense que ça vient d'un rapport, c'est très ancien, peut-être comme modus operandi, comme manière de fonctionnement. Ça vient des processus déjà coloniaux, d'aller coloniser, d'aller prendre. Voilà, c'est une relation qui se base peut-être sur quelque chose plutôt de unidirectionnel. et pas vraiment dans un échange. Donc c'est pour ça qu'on parle d'accaparement, par exemple, dans le cas de la musique, mais je pense que c'est valable pour plein de choses. Et qu'en fait, de manière inconsciente, même si les colonisations ont eu lieu il y a plus de 400 ans, 300, ça dépend des époques, encore aujourd'hui, on ne considère pas être dans une société de colonisation, on continue à perpétuer certains comportements qui viennent de ces processus coloniaux.
Mais j'ajouterais bien une chose, c'est que dans le contexte des musiques et danses traditionnelles aussi, on est dans des situations où il y a eu des ruptures, en fait, des cataclysmes culturels dans les milieux ruraux et des endroits où finalement il y a eu une désappropriation de la culture locale pour les habitants eux-mêmes. Et donc c'est aussi un phénomène qui est lié à la modernité et qui fait que dans ces espaces-là, on va devoir se réapproprier une culture dont on nous a coupé. Et c'est là, c'est tout l'intérêt de parler de ce sujet au sein de nos pratiques des musiques et danses traditionnelles, c'est que c'est très ambivalent pour nous et qu'on est bien placé pour en parler, je pense.
Et oui, justement, c'est un petit peu le sujet que j'avais envie d'aborder. On va l'aborder un peu plus vite que ce que je pensais dans l'émission. Mais oui, dans cette idée de réappropriation qui a pu être abordée lors de la première table ronde, on peut évidemment entendre une réappropriation de la part des peuples vis-à-vis de leur propre culture. Et nous sommes en Bretagne, où la langue et la culture ont été et sont minorisées vis-à-vis du français. Les artistes des musiques populaires sont donc dans une double posture, on peut dire, de dominant à l'échelle globale et de dominé à l'échelle nationale. Dans ce cadre, comment est-ce qu'on se positionne sur ces sujets? Peut-être toi, Chrismen.
Déjà sur l'apprentissage, la réappropriation, c'est assez bizarre, je trouve, comme terme. Par exemple, il y a des stages de breton où on met aussi en avant le fait de réapprendre la langue. Comme si on l'avait déjà su et qu'en fait, effectivement, peut-être nos grands-parents l'ont su, nos arrière-grands-parents la parlaient. Et qu'en fait, quand on se met dans cette position-là, de réapprendre, de se réapproprier, des fois, on a peut-être trop l'impression qu'il va y avoir quelque chose en nous, comme s'il y avait quelque chose dans le sang qui faisait qu'on le connaissait déjà. Je trouve ça un petit peu parfois un petit peu pervers parce que voilà, finalement c'est culturel, c'est pas dans le sang, quoi, mais pourtant c'est quelque chose qui nous appartient ou pas. Je sais pas, s'il y a la liste d'appartenance aussi qui est ambiguë. Moi, quand j'ai commencé le breton, j'avais des grands-parents qui parlaient breton, et pourtant ça a été compliqué d'apprendre la langue. Moi, je voulais chanter en breton. Et j'ai grandi à Plougastel d'Aoulas, avec des grands-parents qui viennent de Briec. Donc déjà, je suis pas vraiment de Plougastel. Moi, c'est à l'échelle de toute petite, hein, mais il y a déjà ces problèmes-là, en fait. Quand j'ai voulu commencer à chanter, je me suis dit, bon, il faut que je chante des chansons de Plougastel, parce que j'habite à Plougastel. Et il y a très peu de choses, en fait. Et donc, à Poulaouen, à 80 km de Plougastel, il y avait... beaucoup plus de fest-noz, beaucoup plus de gens qui chantaient breton. Donc je me suis déplacé un tout petit peu, mais j'avais déjà l'impression de faire de l'appropriation culturelle, on va dire, alors que c'était à côté de chez moi. Et puis il y a une espèce de, voilà, cette histoire de légitimité où on est, en fait, on est déconnecté de ça, déconnecté de ses pratiques, et du coup il faut apprendre. Et pour apprendre, il y a l'immersion. Moi, ça me semblait normal d'habiter l'endroit où je voulais apprendre la langue de là où j'habitais. J'ai poussé le truc jusqu'à là, quoi, à habiter là, à faire partie des assos locales, à apprendre la langue avec les vieux du coin. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir fait une espèce de, voilà, d'appropriation également, quoi, dans le sens positif aussi, quoi, j'ai quand même eu ce truc de légitimité comme la plupart des gens.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à la place qui peut avoir une réappropriation au sein de, d'un collectif, d'une communauté ou de, d'une culture. La réappropriation, on va l'appeler comme ça, de la culture bretonne, en tout cas de la musique, de la langue, a été en tout cas nécessaire pour que la culture bretonne puisse en tout cas perpétuer, continuer. C'est presque un acte de militantisme pour préserver cette culture régionale. Et je ne sais pas à quel point il y a vraiment un rapport, il n'y a pas de rapport, en tout cas à mes yeux, de domination de cette réappropriation. Il y a une envie de faire perpétuer cette culture et il y a un échange avec la perpétuité des Fesnos, la vie culturelle dans la région. Et cette notion de domination, du coup, elle est, pour moi, est-ce que pour toi elle est présente ?
Ouais, si, en fait. Et on porte cette ambiguïté, en fait, parce que la domination du français par rapport au breton, et nous, on a été élevés en français, et donc forcément, quand on veut apprendre cette langue-là, ben déjà, quand on ne parle pas la langue et qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas la langue, ben tout le monde se met à parler français, donc ça pose un problème aussi, et donc ce qui fait qu'on est toujours dans ce... Enfin, c'est toujours compliqué, et... souvent, on se dit qu'en apprenant le breton, on va se libérer de ces questions. Mais en fait, c'est toujours là. Mais voilà, enfin, c'est ce qui est aussi intéressant, vivant, et ce qui nous apporte beaucoup. Quoi. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc de domination au niveau linguistique. Quoi.
Et toi, ce qui est intéressant, Chrismen, c'est que tu as appris la langue et qu'ensuite tu as pratiqué le collectage, où là, tout ce dont tu parles devait être vraiment mis en valeur.
Ouais. Ben, le collectage aussi, c'est une façon d'apprendre. Et puis, en fait, moi, ça me semblait vraiment important au départ de passer par ce qu'on appelle le collectage, un mot qui n'est pas très, très, très joli, je trouve.
Et peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est le collectage, tout simplement.
Le collectage, c'est d'aller rencontrer des personnes pour... y a l'idée d'enregistrer, de collecter des chansons, collecter des histoires. Y a une espèce... Enfin, dans le mot collectage, je trouve qu'il y a ce truc-là comme collecter les ordures, quoi. Enfin, c'est pour ça que je l'aime pas trop. Moi, je préfère dire apprendre avec des gens, quoi. C'est plutôt ça. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à aller voir des personnes, il y avait plus grand monde qui chantait déjà. Et j'ai pas. Au début, je voulais chanter que des choses que j'avais collectées d'ailleurs. Et ça s'est vite arrêté parce que concrètement, il y avait pas beaucoup de matière. Mais par contre, j'ai trouvé des gens qui m'ont appris à chanter et qui ont pris le temps de le faire, quoi. Et ça, c'était le plus important pour moi, quoi, qu'il y ait cet échange-là qui se fasse, quoi. C'est en rencontrant deux, trois personnes, en fait, que j'ai commencé à me mettre dedans, quoi.
Donc, apprendre avec des gens avec qui tu as pu échanger et puis te nourrir un tout petit peu de ça. Et là, on arrive à une création in situ assez rapidement, finalement.
Ouais. Ben en tout cas, les choses sont en train de changer, en tout cas sur les apprentissages, parce que donc, par exemple, Éric Marchand, qui a appris avec Manu Kerjean et avec plein d'autres personnes, lui, il a appris à plein de gens dans un cadre plus organisé, en faisant des stages, en créant Crèzeboise Academy. Donc maintenant, les choses se font plus par ce biais-là, quoi, entre autres. Hein, mais c'est... En tout cas, moi, je pense, j'aime aussi l'idée des choses qui sont un petit peu liées au territoire et que j'ai l'impression que c'est toujours difficile de comprendre une musique sans avoir été en résonance avec le territoire d'où elle vient aussi, quoi. Enfin, je sais pas, ça c'est personnel, mais.
Est-ce que vous avez envie de réagir sur ça, sur le fait qu'une musique résonne avec le territoire d'où elle a pu être créée?
Je ne sais pas si je vais vraiment répondre réagir, mais je pense à ça. Ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. C'est que c'est toi, Chrismen, qui a parlé de la sincérité dans la démarche, que c'est ça peut-être qui pouvait faire pendant le colloque. Je veux dire, pendant la première table ronde, tu as parlé de que peut-être une différence qu'on pouvait faire entre une appropriation culturelle brutale et une autre plus aimante, c'est peut-être la sincérité dans la démarche, qui n'est pas facile à comprendre quand tu ne pratiques pas.
Ouais, et je ne suis pas forcément d'accord avec moi-même à 100%.
Ouais. Je voulais rebondir là-dessus pour dire que, de mon point de vue, cette histoire d'appropriation, il y a le mot « propre » dedans. Et le mot « propre », il a plein de sens. C'est aussi le propre et le sale, quoi. Et ce que j'ai beaucoup entendu et ce que j'ai vécu aussi, c'est quand on est en entretien, qu'on s'entretient avec quelqu'un, quand quelqu'un nous transmet une histoire et qu'on lui transmet autre chose, enfin, quand il se passe cette relation-là et qu'après on raconte cette histoire-là, eh bien, cette personne, elle est avec nous. Et en fait, on risque d'être pris en flagrant délit par cette personne qui est avec nous, alors qu'elle n'est pas vraiment visible pour les autres, mais on risque d'être pris en flagrant délit d'appropriation. Et en fait, on est contrôlé, on se contrôle, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais on n'est pas... ce risque de la domination, moi, je me suis souvent fait cette image, je me suis dit, mais ils vont me taper dessus si je vais trop loin. Tu vois, quand tu racontes une histoire, tu te l'appropries, parce que tu ne peux pas la raconter comme lui. Donc tu te la rends propre, elle devient propre pour toi. Mais si tu vas trop loin, c'est comme si, tu vois, il y avait quelqu'un derrière qui allait t'en vouloir et qui allait te donner un coup de bâton, quoi. Donc je pense que la question de la domination, malgré tout, même à l'intérieur de ce travail, à l'intérieur de la communauté, entre soi et soi, il y a quand même quelque chose qui nous agite, quoi. Voilà. Et donc est-ce que ça résonne avec le milieu, moi je dirais, ben en fait, du coup, c'est pas, je pense que c'est pas découpé, parce qu'effectivement, quand on est dans cette sincérité de réactiver des présences, ben c'est dans des lieux, et puis c'est des langues, et puis c'est des odeurs, et puis donc ça se coupe pas, quoi. Ça peut pas se couper de l'endroit. Enfin, ça peut se couper, mais je veux dire, c'est facile de ne pas le couper de l'endroit, quoi.
Et tu parlais de dominer, et moi je me demandais si c'était, selon vous, possible de dépasser la posture de dominant et dominé au sein de l'appropriation culturelle?
Oui, bah, c'est un peu déjà ce que vous avez dit, c'est qu'on est potentiellement chacun d'entre nous à la fois dominant et dominé. Et c'est ça qui est aussi la complexité du monde social, cette intersectionnalité, comme on dit maintenant. Mais on sait bien que déjà il y a des rapports de genre, des rapports de race, des rapports de classe, des rapports de contextuels, des conjonctures, on peut être potentiellement à différents moments de sa vie dominant et dominé. Donc c'est vraiment un langage sociologique, en fait. Il faut vraiment cette binarité, on en a parlé beaucoup pendant ces deux jours, cette binarité, elle permet de penser les choses, mais ce n'est pas ça la réalité. C'est un outil, en fait, de penser, de penser les rapports de domination. Et il faut bien savoir que être dominant, ce n'est pas forcément être maltraitant, et être dominé, ce n'est pas forcément être soumis. Et on peut très bien, dans une situation, être à la place de la personne dominée et être en lutte, être dans une insurrection. Et voilà, donc c'est vraiment très, très différent d'une posture, on va dire, relationnelle. On peut avoir une très belle relation d'échange sincère dans une relation de domination, qui est une domination sociologique. Donc voilà, comme moi quand j'étais au Brésil, ben, j'étais blanche et j'ai travaillé avec des percussionnistes brésiliens noirs. Par contre, c'était des hommes et j'étais une femme. Donc voilà, il y a plein de rapports de domination, en fait, qui s'accumulent et qui vont pas toujours tous dans le même sens. Voilà, donc tout ça, c'est très complexe. Et donc forcément, la binarité permet juste, à un moment donné, de donner un éclairage sur sur la relation, un éclairage sur ce qui est en train de se passer. Et donc nous, là, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire ce colloque, pas seulement avec des chercheurs, qui étaient d'ailleurs en minorité, hein, de manière volontaire. On était dans une approche pragmatique de l'appropriation. Parce que cette complexité-là, on peut l'appréhender seulement à partir de cas concrets, réels et très, très sensibles, en fait, de ce que c'est la réalité de la transmission, de la création, de tous ces endroits où, en fait, les artistes ont aussi une capacité à parler de ces choses-là, de quelque chose d'un peu indicible finalement, et je pense que beaucoup passent leur vie entière à raconter ces choses-là. Donc je trouvais que c'était bien de faire ce choix de la parole artistique.
Et oui, et c'est plus de 17 personnes qui ont été invitées sur ces tables rondes. Comment est-ce que tu les as choisies, Anaïs, puisque c'est toi qui as un petit peu chapeauté tout le colloque?
Alors, bon, ça a été très, très compliqué pour moi, le casting, et en même temps assez simple. En fait, c'est quand même dans le cadre du festival No Border que ce colloque s'est déroulé. Donc, avec Drôme et le No Border, on a fait au mieux avec les moyens qu'on avait pour proposer aux artistes programmés déjà, de savoir si ça les intéressait de participer. Il y a des gens qui ont refusé aussi. Hein, voilà. Après, il y avait tout l'aspect logistique, des gens qui partaient avant, qui partaient pendant, qui n'étaient pas encore arrivés, comment les accueillir, enfin comment financer ça. Donc on a fait déjà avec une grosse contrainte logistique. Et il y a ceux qui ont accepté de venir. Et ce qui n'est pas évident avec un sujet aussi clivant, conflictuel. Donc c'était aussi comment accueillir ça, dire ben on y va quoi, on y va. Et on a dès le début, on a posé à l'introduction de ce colloque, j'ai essayé de dire quand même qu'on était conscient du panel qu'on avait réussi à rassembler, parce qu'on a essayé de faire autrement, de faire un panel qui, avec plus militants, avec des penseurs, avec des gens racisés aussi qui travaillent sur ces questions, et on n'a pas réussi en fait, même si on avait voulu. Donc il y a vraiment quelque chose de structurel qui fait que bah, ça s'est passé comme ça, et on l'a posé dès le début. Et moi je me suis dit, on va assumer ça, et surtout on va parler depuis cet endroit de l'Occident dominant, et en même temps de la Bretagne, et en même temps de ces musiques minorisées, et de cet endroit-là intermédiaire, justement, à la fois dominant et dominé. C'est un ancrage hyper légitime, en fait, d'aborder ces questions. Donc, on a essayé de dépasser cette ignorance blanche, voilà, essayer de prendre d'autres lunettes, et surtout de faire ce travail réflexif. Alors, bien sûr, ça peut un peu dérangé, dire mais comment ça, vous êtes entre blancs, vous parlez de ça. Bah ouais, mais en fait, regardez, même entre blancs, il y a une espèce de diversité assez complexe, il y a des subalternités blanches, comme dit Caroline. Il y a quand même quelque chose d'assez profond qui s'est passé pendant ces deux jours. Vraiment, on était à un endroit très délicat, et on a réussi, je pense, à créer quelque chose d'assez hors norme, finalement. Et on n'est pas rentré, justement, dans la binarité militante qui peut-être nous aurait amené à un autre endroit intéressant aussi, mais j'ai trouvé que cette étape, elle était assez nécessaire dans nos réseaux, en tout cas professionnels et artistiques, et qu'il y avait un besoin de partager ça, donc de mettre ça dans le pot commun de nos réflexions collectives, quoi. Donc, c'était chouette.
Et j'ai l'impression que c'est un moment où les gens ont vraiment pu dire tout ce qu'ils avaient à dire et mettre en place des tables rondes comme ça, où on se sent assez en sécurité pour pouvoir exprimer tout ce qu'on peut avoir sur le cœur. C'est pas non plus anodin. Donc comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place?
C'est pas anodin, mais c'est aussi y a aussi une dextérité des deux animatrices qui est très importante, quoi. Donc je l'ai citée, c'est Jeanne Lacaille et Aliette Delalleux. Qui ont vraiment fait preuve de beaucoup de subtilité dans la manière de distribuer la parole, de faciliter peut-être parfois une confidence ou alors de calmer des ardeurs. Et ben je trouve que voilà, ça tient beaucoup. Je pense que la qualité de ce qu'on se dit quand on est plusieurs, ça tient beaucoup à la qualité de pouvoir s'écouter, de pouvoir préserver la parole des uns et des autres, de se donner la parole, de prendre la parole. Et ça, c'est une vraie dextérité qui a facilité beaucoup de choses, je pense.
En tant qu'artiste, je trouvais ça très, très riche, et une place, un endroit privilégié de pouvoir prendre ce temps étalé sur deux journées. Ça peut paraître long ou court. Moi, ça m'a paru plutôt court, mais en tout cas, d'avoir cet espace consacré à ça peut amener aussi, non seulement à des réflexions, mais sûrement à un partage de réflexions que peut-être chez soi, soit on ne consacre pas assez de temps à se poser certaines questions, ou on a moins un échange de partage d'autres points de vue qui nous permettent aussi d'arriver par nous-mêmes à d'autres conclusions. Et et de se poser aussi cette question de la musique que j'aime et la musique que j'aime faire. Ça, c'est mon sentiment premier pour lequel je fais quelque chose. En tout cas, la plupart des artistes ont exprimé que la raison pour laquelle ils aimaient, un répertoire précis, c'était par un amour d'une culture, par l'amour d'une langue, par une rencontre, par un disque qu'ils ont eu, elles ont pu entendre. Est-ce que ça suffit? Est-ce que cette question que j'aime ça, c'est la seule question que je dois me poser? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions derrière? De comment je fais ça? À qui ça profite? Est-ce que j'abîme quelqu'un ou quelque chose en faisant ça? Ce sont des questions que peut-être parfois on peut être en tant qu'artiste dans un monde un peu naïf de l'amour, d'être touché par un sentiment profond vis-à-vis d'une musique. Et peut-être ces questions-là ne viennent pas forcément de manière systématique. Et de le faire, de les évoquer, de prendre ce temps, ça nous permet aussi d'amener ces questions dans notre pratique. Et ça nous oriente aussi vers comment on a envie de faire par la suite.
Tout à l'heure, je disais que je n'étais pas forcément d'accord avec moi-même quand j'avais dit que la sincérité, c'est ce qui était important, en fait. Et c'est vrai que... Est-ce qu'il suffit d'aimer pour posséder si on parle de choses plus larges, sans doute que non. Et voilà. Donc c'est vraiment plus complexe que ça, quoi. Par contre, effectivement, là, quand je parle de sincérité, c'est aussi de sincérité dans l'échange. Quand on est, j'ai pris un autre exemple aussi de j'avais parlé de Matmata, par exemple, puisqu'on est à Brest, qui chante du Kanda Discord en français, et c'est une parodie, quoi. Moi, ça me touche pas et ça m'énerve un peu, mais qu'il y ait des gens qui aiment ça, tant mieux pour eux. Je me disais, mais en fait, si moi, entendre du Kanda Discord en français, ça m'énerve parce que c'est la langue dominante. Comparé au breton, quoi. Et je me disais, mais est-ce que si j'entendais du Kanda Discord en arabe, par exemple, qu'est-ce que ça me ferait? En fait, j'aurais trop envie d'entendre ça. C'est bizarre. Enfin, là, je parle de choses vraiment pas réfléchies, mais plus de ressenti, quoi. Mais en tout cas, je pense que ce qui fait que moi, ça me touche ou ça me dérange, c'est le fait qu'on le fait... dans la parodie, forcément, c'est pas la même chose que le faire parce qu'on aime quelque chose, quoi. C'était plus dans ce sens-là, quoi.
En tout cas, ça touche vraiment à la sensibilité. Et quand on pratique ce genre de musique, on est tout de suite touché. Et ce que je trouve intéressant aussi sur le sujet de l'appropriation culturelle, c'est que c'est un sujet qui est vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire que là, on va toucher au sensible, mais on va aussi toucher au mercantile. On va toucher aussi potentiellement à l'écologie. Enfin, ça retouche énormément de sujets. Et ça, il me semble que vous l'avez abordé aussi lors de ces colloques.
Oui, ça a été abordé par rapport au fait de... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de... voyager à l'autre bout du monde pour aller au bout de notre démarche. Cette peut-être idéalisation de l'ailleurs, de la carte postale qui est sur une autre culture. Est-ce que chez nous, on n'a pas déjà des personnes qui peuvent nous transmettre? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des échanges déjà dans des milieux associatifs, militants, qui peuvent aussi être transmetteurs, transmettrices, acteurs, actrices de ces répertoires ou de cette culture? Du coup, ça touche au bilan carbone. Hein. C'est, est-ce qu'on a besoin pour un répertoire de vraiment voyager tout le temps loin? Le côté de l'objet, parce qu'on parle de sentiments, on parle de sincérité, on parle de musique, on parle des choses impalpables. Finalement, pour construire des choses palpables, albums, spectacles, des choses qui sont des objets qui appartiennent à une économie... capitaliste, donc ça pose aussi une autre question sur qu'est-ce comment on les met là, je sais pas si.
Ben c'est aussi comme tu disais Rebecca, le fait de prendre ce temps de déplier en fait les mots. Quand on prend le temps de déplier ce qu'est la culture, c'est-à-dire ne pas considérer que c'est un objet qu'on vient consommer, mais que c'est un monde. eh ben, on est forcé d'aller dans toutes les dimensions de ce monde. Et qu'en fait, effectivement, du coup, l'appropriation culturelle, ça devient quelque chose d'énorme. C'est pas du tout un détail, quoi.
Et d'un monde et aussi de luttes qui ont pu avoir lieu. Et donc forcément, ça touche à des choses d'autant plus sensibles. On va marquer une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Anna Ferrer avec le titre « Magra Sepicolar ». Je suis désolée, je parle très mal espagnol, qui joue ce vendredi 12 décembre à 19h au Quartz. C'est tout de suite sur Fréquence Mutinée Radio.
C'est bien, on entend la musique.
Donc cette émission que nous enregistrons au Quartz le vendredi 12 décembre 2025 lors du festival No Border et où l'on parle eh bien, appropriation culturelle. C'était le sujet des deux journées de colloques organisées dans le cadre de ce festival. Et on reprend avec une question. Comment définir la musique populaire?
Vaste question. Non, non, mais alors, non, en fait, je pense que... je pense que je vais pouvoir dire nous au nom des artistes qui font ce genre de musique. Je pense qu'il n'y a aucun terme qui nous convient. On parle de musique traditionnelle, ça ne nous va pas vraiment parce qu'il y a ce côté traditionnel où on a l'impression que ça ne va jamais bouger, alors que dans la définition traditionnelle il y a aussi ce sens de musique qui évolue. Mais ça... quand on parle aussi de musique folklorique, on n'en parle plus beaucoup, mais c'est peut-être un terme à remettre au goût du jour le folklore qui vient de folk du peuple, quoi. Donc musique populaire, musique voilà, c'est aussi ça revient à ça. Est-ce que c'est suffisant pour expliquer ce qu'on fait? La K-pop est une musique populaire, mais c'est, ça n'a pas grand chose à voir avec la gavotte. Voilà, je sais pas.
En fait, je pense qu'il n'y a pas un seul terme, justement, au sein des différentes pratiques et différentes musiques. Il y a justement la notion de traditionnel, parce que ça s'inscrit dans un contexte précis, dans un moment précis, avec il y a une sorte de cadre géographique, temporel, etc., populaire, avec la vision peut-être peuple et militante, ou qui contrebalance, en tout cas, c'est une musique qui se révèle à quelque chose, en tout cas qui naît pour militer, pour lutter. En tout cas, il y a une notion liée à ça avec populaire, musique d'exil, qui sont plus considérées traditionnelles parce qu'elles sont plus dans le sol et dans le cadre géographique, mais sont quand même des musiques qui sont en exil. Folklorique, parce que c'est une vision plutôt occidentale, une sorte de mise en scène d'un contexte. En tout cas, c'est un terme que il y a beaucoup de débats autour de ce terme, donc à bannir ou pas. Mais donc en fait, il n'y a pas un seul terme justement pour toutes ces musiques. Il y a des musiques traditionnelles qui ne sont pas forcément populaires, des musiques populaires qui sont pas forcément qui sont ou pas traditionnelles ou qui le sont devenues.
Il y a
une palette large.
Ouais, j'ai une petite anecdote que j'aime bien. Une fois, je revenais d'un concert avec Chris Braze Academy au Portugal, et donc on remonte en voiture avec Eric Marchand, et on s'est dit on a un peu de temps, on va essayer de se trouver un endroit sympa. Mais pour nous, un endroit sympa, c'est pas forcément ce que les touristes cherchent. Alors on s'est dit, on va essayer de trouver une espèce de bar où vraiment en fond de campagne, et On avance devant des bars qui avaient l'air très très sympas, avec une petite terrasse. On dit non, c'est pas pour nous, c'est pour les touristes. On continue. On arrive à un carrefour, et puis là on voit quelques chaises en plastique. On se dit, ah, mais c'est peut-être un bar, on y va. Effectivement, c'était un bar exactement comme on voulait. Et puis on boit quelques verres, et puis là on se dit, bon, peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose autour d'ici. Et puis je pose la question au patron, est-ce qu'il n'y a pas une petite fête dans le coin? Et puis il dit, si, il y a une fête à 2 km. Et je pense, qu'est-ce que c'est comme fête? Il dit, es una fiesta normal. C'est une fête normale. Donc je dis, mais qu'est-ce que c'est une fête normale? On y va, et dans cette fête normale, il y avait des bœufs qui tiraient des parpaings. Il dit, ah, c'est normal. Et en fait, on s'est dit, mais ce terme, il est pas mal. Donc pourquoi en musique, c'est peut-être de la musique normale, la musique du coup, avec Eric, on se disait souvent ça, quand on va organiser une fête normale. Une fête normale, ben voilà, c'est tu prends un hangar, tu fais du camp à discount, et puis voilà, c'est une fête normale, quoi. Donc pourquoi pas, enfin, c'est une norme qui, en tout cas, c'est une norme alternative, quoi.
J'aime. Et peut-être en décentrant un peu, en donnant un point de vue un peu différent, parce que moi je suis pas musicienne, mais par contre je dirige une structure qui essaye de soutenir les cultures populaires. Donc nous, quand on utilise le mot musique populaire, c'est aussi pour pouvoir dire que les milieux populaires pratiquent de la musique, de la chanson, et qu'il faut qu'ils puissent le faire. Donc ça passe par plein d'aspects. C'est pas forcément le répertoire, du coup, qui est visé, mais c'est la gratuité de cette pratique, c'est que les milieux populaires puissent pratiquer la musique qui leur plaît. Voilà. Et donc derrière ça, il y a aussi une économie, il y a aussi une question de droit d'auteur, il y a aussi une question de répertoire, de pouvoir changer les répertoires, de pouvoir avoir des lieux pour jouer. Enfin voilà, de mon point de vue, ça veut dire ça aussi, le fait de parler de musique populaire.
Et c'est aussi rappeler que la musique appartient à tout le monde.
Tout à fait. Et qu'elle n'est pas séparée en catégories esthétiques, au départ, en fait.
Merci. Ben, je vais revenir sur une catégorie esthétique et potentiellement une expression à bannir, musique du monde. C'est à bannir ou pas?
sans doute.
Moi, j'aime pas trop.
Non. Bah, c'est. Non, moi.
Après, mais alors, c'est quoi pour vous?
C'est quoi? Alors, c'est quoi?
Alors, quelle musique ne serait pas du monde?
Voilà, c'est ça.
On peut tout de suite répondre.
Ouais.
La musique classique n'est pas du monde. On est d'accord? Elle n'est pas considérée comme musique du monde. Après, je ne sais pas quelle heure. Non, mais si on fait par défaut, ça peut aller bien loin, donc c'est un peu ridicule.
Peut-être que
c'est ça.
Finalement, c'est ce qu'elle disait à Lynn quand elle était partie en Turquie, qu'elle jouait du violoncelle en Turquie, et que finalement, pour elle, d'un point de vue turc, c'était finalement la musique classique était une musique du monde quasiment. Quoi. Donc,
mais en même temps, la musique du monde, c'est aussi. La possibilité d'avoir un groupe d'appartenance pour beaucoup de musiciens qui n'arrivent pas à, justement, dans cette crise de légitimité dont on a beaucoup parlé pendant deux jours, qui n'arrivent pas à se sentir légitimes dans le fait de peut-être pratiquer une musique traditionnelle d'un pays dont ils ne sont pas originaires. Et donc, qui utilise comme espace d'appartenance ce terme-là, musique du monde. Donc, c'est délicat aussi de dire qu'il faut le bannir. Ça dépend qui l'utilise. Hein. Parfois, c'est très important.
En fait, c'est encore une fois le prisme avec lequel on utilise un mot. C'est dire musique du monde. C'est quelque chose qui vient d'une stratégie de marketing pour mettre en avant un ensemble de répertoires. Et qui finalement, on met dans le même panier une Cesaria Evora, un Eric Marchand, et les voix bulgares, le mystère des voix bulgares. Ce sont trois choses complètement différentes. Du coup, c'est ce truc un peu de le monde, c'est les autres. Et pas nous. Et qui c'est qui nous qui disons ça? C'est toujours ce prisme. Qui personnellement me dérange parce que c'est vrai qu'en en Amérique latine on n'utilise pas le terme musique du monde par exemple, ça n'existe pas sauf quand on utilise le mot en anglais world music qui nous vient des États-Unis, mais nous on n'utilise pas cette expression, on dit musique péruvienne, musique argentine, musique bretonne, musique américaine, nord-américaine, états-unienne. Et oui, donc c'est ce truc un peu réducteur, c'est ça qui peut être dérangeant.
Et pour éviter d'être réducteur, il faut penser toutes ces questions-là de manière absolument globale.
Oui, ça me fait penser à ce que Jérémy Piola a développé, il appelle ça le sudalisme. C'est le monde, voilà, c'est les autres. Et lui, il fait un peu la même démonstration avec le sud, parce qu'on dit les suds maintenant, mais... Voilà, et comment, en fait, on agglomère toutes sortes de régions subalternes, en fait, dans une espèce d'ensemble complètement arbitraire, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, de l'hémisphère sud. Et voilà, on a des représentations des suds qui n'est pas géographiquement vérifiée en plus. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est comment... La catégorie marketing va finalement générer une sorte de vue globale, effectivement, complètement biaisée, complètement fausse de ce que peut être tout simplement le monde, oui. Voilà, qui sont en fait des mondes. Bon, déjà, musique du monde, c'est musique au pluriel. Déjà,
il faudrait dire
musique des mondes.
Ouais, c'est pas mal ça.
C'est un peu démoniaque.
En tout cas, ça reprend, j'imagine, un petit peu ce que vous avez pu évoquer sur la seconde table ronde, appartenance et partage, propriété culturelle et sentiment de dépossession. Et moi, je me demandais si la propriété culturelle pouvait être traitée de façon juridique.
C'est une super question qu'on n'a pas du tout abordée de cette façon, parce qu'on n'en était pas encore là. Mais il y a plusieurs dispositifs quand même qui sont réfléchis. Bon, on connaît tout ce qui est de l'ordre des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, mais là, c'est pas forcément ces outils-là qui pourraient nous aider à cadrer légalement des situations d'appropriation. Mais par contre, je peux donner un exemple, parce qu'après, on pourrait parler des droits culturels, des droits humains, on pourrait parler de plein de choses, mais des communs. Mais je ne suis pas assez spécialiste de la question. Mais par contre, moi, je pourrais parler de la notion de patrimoine, qui est quand même une forme de cadrage, d'officialisation des attachements. C'est-à-dire l'officialisation des attachements qu'une communauté peut avoir avec certains éléments culturels. Voilà. Ça, c'est une forme d'officialisation, on va dire, qui n'a pas forcément d'action légale sur les choses. Enfin, ça ne fait pas forcément jurisprudence dans les cas d'appropriation culturelle, pas officiellement. Mais en tout cas, voilà, c'est une forme d'institutionnalisation des attachements des communautés à leur culture. C'est la patrimonialisation. Mais ça aussi, c'est très... j'en ai pas parlé pendant le colloque, mais il y a un très très bon film d'un anthropologue qui s'appelle Afstein, qui est anthropologue de l'UNESCO. Enfin, il a observé l'UNESCO, en fait. Il a fait une étude ethnographique de l'UNESCO et il a fait un film sur la chanson « El Condor Pasa ». Et ce film s'appelle « The Flight of Condor ». Donc, c'est le vol du Condor. Et donc, il explique toute l'histoire de cette chanson et toutes les étapes d'appropriation, parce que bon, ça a été un grand scandale. Donc, c'est Simon & Garfunkel qui ont fait des millions avec cette chanson, qu'ils ont piqué à l'époque à un groupe qu'ils ont rencontré à Paris, qui était un groupe d'exilés qui tournait là. Enfin, voilà, donc il y a eu toute une histoire. Et je vous invite à regarder ce film, il est en accès libre sur Internet. Ça raconte aussi comment ça a été une bataille entre la Bolivie et le Pérou, comment en fait ça a été une des premières demandes de patrimonialisation, cette chanson, de la part d'un État, qui était un État dictatorial, etc. Donc il y avait aussi un truc très très identitaire à vouloir patrimonialiser cette chanson comme étant le symbole du pays. Alors qu'en fait, toute l'histoire, c'est que c'est un compositeur péruvien qui a déposé cette chanson à son nom, mais qui en fait a été collecté dans les Andes. Et enfin voilà, donc c'est assez passionnant de voir que même dans la question patrimoniale, bah, y a des relations de pouvoir, de légitimité. Qui est légitime à dire que c'est sa culture? Qui va vouloir patrimonialiser, c'est-à-dire se mettre comme représentant de cet élément culturel en disant bah, « voilà, nous, c'est ça notre attachement, c'est ça notre culture ». Donc voilà, tout ce qui fait a priori consensus dans le patrimoine, les anthropologues ont très très vite démontré que ce n'était pas consensuel du tout. Et donc, même à cet endroit-là, je pense que juridiquement, même cette question du patrimoine, elle est pas efficace, forcément.
Par contre, je veux bien donner un exemple qui n'est pas exemplaire, mais qui peut aussi parler de quelque chose on est passé un peu vite dessus, parce qu'il y a une remarque dans le public à un moment qui disait « la propriété publique, ça n'existe pas ». Or, la propriété publique, ça existe. Et dans le Morvan, par exemple, le choix qui a été fait juridiquement, c'est de protéger la propriété publique de ces chants, de ces répertoires. Donc il y a le jour où, en 1988, il y a un artiste qui dépose un chant traditionnel à son nom et un groupe qui se retrouve avec une lettre de la SACEM qui lui dit « vous n'avez pas le droit de jouer ce morceau parce que c'est à lui », tout ça. Il y a vraiment... tous les groupes se sont réunis, les groupes amateurs, pour former une association, l'Union des groupes ménétriers du Morvan, pour tenir le domaine public. C'est-à-dire pour dire... Et c'est pour ça que nous, on a fait ces entretiens enregistrés. Parce que à partir du moment où on a l'entretien enregistré de Monsieur Machin, qui est dans la commune de Bidule, qui a chanté cette chanson, il a le droit de propriété intellectuelle comme œuvre de l'esprit sur cette chanson, et il n'y a personne d'autre qui peut le déposer après en disant que c'est à lui. Et donc nous, en démultipliant ces œuvres de l'esprit, en démultipliant cette propriété intellectuelle, aujourd'hui on a des plus de 5000 heures d'enregistrement, ben on protège ce domaine public en fait. C'est une manière de faire qui n'est pas parfaite, mais qui nous aide bien.
Mais du coup, je rebondis parce que je trouve ça très intéressant. Ça nous met dans un contexte où effectivement beaucoup de musique populaire auparavant étaient des musiques rurales ou qui avaient souvent une fonction, en tout cas qui était liée à une activité ou en tout cas à un contexte c'était beaucoup par exemple des paysans qui faisaient des chansons, qui chantaient ensemble, qui répétaient des chansons, et n'étaient pas dans une démarche professionnelle ou professionnalisante de ce répertoire. Donc il y a ce partage qui est une sorte de propriété publique au profit de personnes et en même temps de tous et toutes. Et dans la logique contemporaine de la professionnalisation des musiciens et des musiciennes, où on déclare en tant que droit d'auteur, c'est là où ça vient être délicat. C'est est-ce que j'écris de la musique populaire, mais je ne me sens pas légitime de déclarer une chanson, même si je l'ai écrite, parce que je suis inspirée d'une gavotte que j'ai déjà écoutée. Mais c'est quand même ma chanson que j'ai écrite avec mon texte et des mélodies. Je la déclare, est-ce que je la déclare pas? Mais si j'arrange quelque chose avec les paroles d'une dame que j'écoute dans un collectage, mais j'écris la musique et les paroles, est-ce que je peux quand même déclarer? Non, je peux pas, je peux. Et ça amène à d'autres questions qui étaient, ces gens-là, à l'époque, ne se posaient pas ces questions-là. Il y a des gens qu'aujourd'hui ont toujours pas envie de se poser ces questions et qui disent, nous, notre choix, c'est, on déclare rien. On joue, mais on ne déclare rien. Ou si je suis créateur, créatrice, j'écris des textes, j'écris des chansons et je déclare mes droits d'auteur et, ou l'arrangement, ou je laisse le texte anonyme ou traditionnel si le texte n'est pas à moi. C'est vraiment beaucoup de questions très délicates et très subtiles autour de ce patrimoine collectif, public.
Et que la modernité fait entrer en jeu, puisque avec l'arrivée de la radio, forcément tout change, la radio en tout cas, mais bref, du moins la musique enregistrée, puisque cette époque dont tu parles avec les paysans qui chantent dans les champs, c'était leur seule manière d'entendre de la musique et de faire de la musique aussi. Donc forcément, tout ça est lié à la modernité. Et de fait, je rebondis aussi sur ce que tu étais en train de dire, c'est que là, ça pose des questions de moralité, tout simplement. Mais est-ce que c'est viable, justement, de prendre ces questions-là par le prisme de la moralité?
Ça, c'est l'anthropologue Elina Djebari qui était là aussi, qui a participé. Elle a posé cette question. Elle a dit, est-ce que finalement, toute cette affaire de l'appropriation culturelle n'est pas une tentative de moraliser nos pratiques culturelles? Il y a un travail en ce moment en anthropologie sur la moralisation de la culture. C'est quelque chose qui... En fait, ça fait partie intégrante de ces réflexions. Hein. On est vraiment dans le même mouvement. Moi, je travaille beaucoup sur le carnaval, par exemple, et je suis beaucoup sollicitée sur cette question de la moralisation des cultures populaires carnavalesques, sur justement qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas quand on est dans un carnaval, comment on manipule les stéréotypes ou pas, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est raciste ou pas de jouer à être l'autre. Enfin voilà. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Oui ou non, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend du récit, ça dépend du cadre aussi. Quand c'est une municipalité qui fait un char énorme avec des stéréotypes mis en scène, etc., on peut se poser clairement la question de la moralisation, c'est-à-dire de la responsabilité, en fait, d'une collectivité, d'une institution, à mettre en scène quelque chose de cette façon. Quand on est sur des pratiques individuelles, carnavalesques par exemple, des cultures populaires où les gens ont des jeux, etc., la question se pose autrement. En tout cas, c'est quelque chose qui traverse largement les questionnements sur la culture, mais aussi, ça a été dit plusieurs fois, hein, et des sociologues le disent, de questionner la culture, c'est pas forcément le bon chemin. Non plus. Mais ça, c'est toujours la question de est-ce que la culture, c'est pas un moyen de dépolitiser les choses, de toujours parler de culture, de culture, de culture. Donc, il y a aussi cette histoire de moraliser, plutôt, on va dire, de repenser éthiquement nos pratiques culturelles. Donc, on a quand même parlé d'écologie dans nos pratiques. Voilà, et l'éthique... tout simplement de la conscience de ce qu'on fait, mais ça Rebecca l'a déjà dit, hein, de qu'est-ce qui peut nuire ou pas. En fait, c'est vraiment un travail de conscientisation politique collective, quoi, parce que la culture, c'est pas que de la culture, la musique, c'est pas que de la musique, et donc forcément, là, dans nos pratiques, de parler depuis cet endroit de la création, on a pu un peu commencer à voir que ça a engagé plein de choses économiques, mais aussi symboliques. Donc de voir que effectivement, même d'un point de vue moral et éthique, l'argent ne résout pas. Parce qu'il y a souvent cette question de la rétribution, de la compensation, qui est importante à poser, mais ça ne résout pas tout. Donc il y a aussi toute autre chose à questionner du point de vue de l'éthique, plutôt la morale. Ça voudrait dire il y a des bons comportements et il y a des mauvais. Et voilà, là on est, je pense que nous, dans cette réflexion qu'on engage là collectivement, on n'est pas à cet endroit-là de la morale. On est à l'endroit de l'éthique et de comment ensemble on va politiser un peu nos pratiques, comment on va prendre conscience, comment on va mettre des outils pour cadrer tout ça sans, et pour se donner de la liberté, parce que c'est quand même ça l'histoire, c'est dans un cadre de contraintes, ben voilà, pour qu'on puisse créer de manière humaine, éthique et consciente, quoi.
Et toutes ces réflexions qui ont lieu, par exemple, pendant ces deux jours, forment comme un tissu extensible, qu'on pourrait dire qu'en fait, il se nourrit de tous ces outils avec des réflexions que, par exemple, on a pu avoir aujourd'hui, ce sont des réflexions que peut-être il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, on n'avait pas du tout. Et c'est pareil pour d'autres sujets comme le féminisme, comme le racisme, comme la transphobie, l'homophobie. Ce sont des tissus extensibles qui doivent continuer à évoluer et qu'en fait, aujourd'hui, il y a des choses d'il y a 50 ans qu'on va dire aujourd'hui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc on émet un jugement de valeur sur quelque chose qui aujourd'hui n'est plus possible, mais le tissu d'aujourd'hui reste élastique parce qu'il doit continuer à évoluer. Et en fait, c'est assez important, par ce que tu disais tout à l'heure de El Condor Pasa. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué qu'il se passe quelque chose comme, par exemple, le cas de la foule. La foule est une grande chanson du répertoire français qui en fait n'est qu'une valse péruvienne écrite en espagnol et qui fait partie d'un imaginaire du patrimoine de la musique française, mais ça l'est pas vraiment. Et si ça avait été une reprise citée avec en tout cas une considération pour la personne ou pour l'endroit d'où ça vient, il y a un échange et un dialogue sur j'aime trop ce que tu fais et je veux aussi le faire et le traduire. Et il n'y a plus cette notion de... en fait, la foule, c'est une chanson d'Edith Piaf. Et aujourd'hui, ça pose beaucoup plus de problèmes de faire ce genre de choses parce qu'on est conscient que ce n'est pas bien de faire ça. Mais on peut pas dire peut-être un peu moins clairement que c'est pas bien des choses un peu actuelles, mais ça en tout cas aujourd'hui ça nous pose plus problème.
L'air de rien, c'est ce que tu dis, ça me fait penser que finalement c'est aussi lié à la modernité de pouvoir le faire. C'est parce que maintenant on sait beaucoup de choses, on peut avoir accès à beaucoup de choses et on ne peut plus ignorer cette valse péruvienne en fait. Du coup c'est intéressant de ne pas séparer en ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'en fait c'est à nous de nous positionner avec tout ce qu'on a pour étendre le tissu, comme tu dis, de nos pratiques, quoi.
Mais ça me fait penser à une anecdote, c'est pour ça que ça, parfois, c'est un peu choquant, c'est que j'étais en France en train de faire un concert et j'ai chanté un joropo traditionnel, c'est un chant populaire anonyme du Venezuela, de la plaine. Et il y a quelqu'un dans le public qui vient me voir et me dit « Ah oui, super, votre version en espagnol de Hugo Frey. » Et moi, mais qui est Hugo Frey? Je ne sais pas du tout qui c'est. Et c'est telle chanson, mais quelle chanson? Et il finit par chanter « Oui, celle que vous avez chantée. Eh, pervier, faut le dire. » Et en fait, Je suis dans un autre monde, je ne comprends pas du tout. Et en fait, je suis allée écouter ce fameux Hugo Frey avec l'album. Et en fait, c'est une reprise traduite à la lettre, en plus des paroles de la chanson, et enregistrée et déclarée comme Hugo Frey. Donc, bon, c'est là où je fais... Ah, voilà, donc c'est drôle. On va dire que c'est drôle.
Moi, j'ai l'impression que ce qui ressort de ce colloque, c'est que tout n'est ni blanc ni noir et qu'il ne faut pas du tout faire preuve de manichéisme donc, dans ce genre de sujet, enfin sur ces sujets-là en tout cas. J'aimerais savoir, pour terminer cette émission, s'il y aura un avenir à ce colloque, parce que vous êtes tous rencontrés, vous avez pu développer tout un tas de sujets, mais vous avez seulement commencé à les développer et je pense que c'est des sujets dont on ne peut pas venir à bout. Est-ce que vous allez réorganiser des choses peut-être à l'avenir?
Je crois que c'est le moment de parler de la FAMDT, de la Fédération des musiques et danses traditionnelles et du monde. donc oui, avec la FAMDT, en tout cas, on est en train de réaliser une série, on dit de podcasts, mais en fait, ce sont des petites enquêtes, des petits focus, on va dire, sur des pratiques d'appropriation ordinaire. Donc là, on a commencé par faire ça à Marseille. Voilà, on a choisi Marseille. J'ai choisi Marseille en me disant, voilà, c'est l'Occident et en même temps, c'est Marseille. C'est pas que la France. D'ailleurs, là-bas, ils disent non, mais ici, c'est pas la France. Donc, voilà, il y a un truc intéressant aussi à Marseille, comme grosse ville avec beaucoup de migration, beaucoup de pratiques musicales qui viennent du monde entier. Voilà, donc on va faire ces petites enquêtes qui vont à la fois parler donc de pratiques de musique étrangère, mais aussi de chants occitans, par exemple, parce qu'il y a eu ces derniers temps sur les réseaux sociaux aussi des accusations d'appropriation culturelle vis-à-vis de la jeunesse marseillaise, urbaine, queer, militante. On parle des chorales qui s'approprient en fait des chants, notamment en occitan, et qui ne parlent pas l'occitan. Et ça énerve beaucoup certains locuteurs, voilà, un peu conservateurs peut-être aussi, mais qui disent qu'il faut, en même temps, ils disent, et ça a été dit aussi, c'est bien de parler la langue. Quand on chante, de parler la langue qu'on chante. Mais voilà, ça c'est aussi des choses, oui, c'est des principes, mais après, est-ce que vraiment on peut accuser les gens de chanter en occitan s'ils ne le parlent pas? Voilà, toutes ces réflexions-là. Le premier épisode est déjà sorti, il est sur le Maloya, donc je vous invite à l'écouter. Et c'est assez bien déjà comme premier épisode parce que ça montre un peu toutes les problématiques qui se pose dans cette pratique d'appropriation. Donc c'est le Ker Maloya, c'est une chorale réunionnaise à Marseille qui est menée par Sandra Richard, qui est une réunionnaise tamoule et qui donc transmet le répertoire traditionnel à 18 femmes de Marseille qui sont blanches, racisées, qui voilà, enfin, ce sont des Marseillaises quoi. Et elles partent à la Réunion et elles racontent comment ça s'est passé là-bas. Et donc évidemment, bah il y en a, ça leur plaît pas, il y en a, ils trouvent ça génial. Enfin voilà, tous ces questionnements. Mais en tout cas, ça raconte comment on va être traversé par ces questions-là quand on fait, quand on transmet, quand on voilà. Et puis pour continuer avec la FAMDT. Pour les rencontres modales, l'Assemblée Générale, c'est vraiment un grand rendez-vous de la Fédé, un rendez-vous national hein, qui aura lieu à Aubervilliers en juin, début juin. Je pense qu'on va prolonger les discussions, donc on ne sait pas encore, on vous dira comment. Il y aura sûrement aussi un compte-rendu dans la revue Volume de ce colloque.
Oui, excellente revue.
Excellente revue scientifique. Voilà, en se disant que peut-être déjà, ça va commencer à circuler cette affaire de réflexion collective. Donc voilà, peut-être des actes de ce colloque, augmenter d'autres apports. Ça, ce serait un souhait personnel. Donc on va y travailler, mais ça va être long, quoi. Voilà, c'est comme vous disiez, c'est pas... On ne va pas conclure.
En tout cas, on aurait pu continuer à parler de tout ça pendant encore des heures, je pense. Hélas, nous, on doit conclure cette émission. Merci beaucoup, Anaïs Vaillant. On rappelle que tu es coordinatrice de ce colloque, anthropologue et musicienne. Merci également à Caroline Daroux, anthropologue et directrice de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Je commence un peu à bugger au bout d'une heure d'émission. Merci à toi, Chris Men. On rappelle que tu es auteur, compositeur, interprète et comédien breton.
Et chanteur de gavotte.
Et chanteur de gavotte. Et merci également à toi, Rebecca Roger Cruz. On rappelle que tu es chanteuse et percussionniste.
Merci. Merci Aurélie.
Merci.
Et merci à vous. Et ben on vous souhaite une bonne journée à l'écoute des ondes de Fréquence Mutine et de Radio U.